Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la chronique des apatrides anonymes avec Marie-Ève. Alors, bonjour Marie-Ève.
Salut Christian, ça va bien?
Oui, ça va bien, et toi?
Oui, en ce lendemain, de 1er mai, moi j'ai le cœur à la joie en tout cas. je vais commencer aujourd'hui, je vais faire un peu du coq à l'âne, c'est-à-dire autant faire un peu du suivi de choses dont on a parlé dans les dernières chroniques, puis faire un peu aussi de nouvelles. Dont une qui m'a un peu pas troublée, mais bon, le mot serait un peu fort parce que bon, on le sait, hein, la cupidité n'a pas de limite et il y en aura toujours pour faire de l'argent avec le malheur des autres. C'est le cas de certains consultantes en immigration qui en profitent pour s'enrichir ou en tout cas qui espèrent s'enrichir en courtisant les Syriens et Syriennes qui travaillent dans les pays du Golfe Persique et qui voudraient venir ici dans le cadre du programme d'accueil des réfugiés syriens et syriennes. Évidemment, bon, c'est pas pour rien que ces consultants en immigration se tournent vers les pays du Golfe Persique qui ont évidemment plus de moyens que ceux et celles qui habitent dans des camps de réfugiés. Donc, ces consultants-là affichent leurs services dans les médias sociaux et rencontrent leurs candidats et candidates potentiels dans des hôtels 5 étoiles du Golfe. Certaines de ces agences, faut le dire, enfreignent les règles du programme de parrainage privé de réfugiés en exigeant le paiement à l'avance de leurs frais d'établissement au Canada. Parce que selon les règles fédérales du programme de parrainage privé, il revient aux parrains et parraines de subventionner, dans le fond, ou de payer pour l'établissement du ou de la réfugiée qui souhaite parrainer, qui doivent subventionner l'établissement de ces personnes-là au pays ici, et ce, durant un an. Donc, ce n'est pas à la personne qui vient ici d'avancer elle-même cette somme-là. Dans le cas des consultants, consultantes en immigration dont je vous parle. Là, on parle de frais de 500 $ environ en frais de dossier et de plus de 12 000 $ de plus pour soutenir leurs demandes auprès d'Ottawa. Il y a Osama Ebid, qui est un de ces consultants-là, qui lui est pour l'agence Fast to Canada. J'adore le nom, c'est Vite au Canada, qui a affirmé « On cherche à faire des profits, on ne travaille pas gratuitement. » Au moins, ça a le mérite d'être clair, je veux dire. C'est pas très subtil, mais c'est clair. Cette agence-là, Fast to Canada, elle dit traiter actuellement les dossiers de 550 réfugiés quand même, la plupart étant des Syriens qui vivent dans la région du Golfe. Donc, c'était un peu la nouvelle sinistre du jour. Mais bon, une nouvelle sinistre ou cynique, si on veut, mais le cynisme n'en entend pas. Est un peu répandu. Je vais revenir un peu sur une situation dont on a un peu moins entendu parler ces derniers temps, mais qui recommence. Ce sont les naufrages meurtriers en Méditerranée. Depuis que l'accord conclu entre l'Union européenne et la Turquie, qui prévoit le renvoi de tous les migrants qui gagnent la Grèce à partir de la Turquie, et donc coupe la route traditionnelle terrestre vers les Balkans, là. Et avec l'arrivée du printemps, du redoux, de températures plus clémentes, les naufrages dans la mer Méditerranée entre la Libye et l'Italie ont repris de plus belle. Par exemple, un des derniers en liste, le 20 avril dernier, le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU a annoncé qu'il y avait eu un naufrage de bateau qui était parti de la Libye et qui a fait jusqu'à 500 morts dans le sud de la Méditerranée. Seulement 41 personnes ont survécu. Le bateau, initialement, faisait 30 mètres de long et contenait entre 100 et 200 personnes. Et ce qui se serait passé, c'est qu'après plusieurs heures en mer, les passeurs ont essayé de les transférer sur un bateau plus grand, mais qui transportait déjà des centaines de personnes, évidemment dans des conditions terribles de surcharge. Et là, à un moment donné, pendant le transfert, le plus grand bateau aurait chaviré et coulé. Et donc, les survivants, les 41 personnes qui ont survécu, sont celles qui étaient pas encore montées à bord du deuxième bateau et ou qui ont réussi, en fait, à nager jusqu'au petit bateau après le naufrage du gros bateau. Les rescapés ont ensuite dérivé en mer pendant environ peut-être 3 jours, là, selon le HCR, avant d'être repérés et secourus par un cargo philippin qui les a débarqués à Kalamata, qui est une presqu'île de la Grèce. Donc là, je sais pas, on sait pas trop, c'est difficile là, de voir ce qui va arriver avec eux. Depuis janvier, peut-être revenir sur quelques chiffres là pour un peu vous donner un portrait de ce que représente la traversée de la Méditerranée. Depuis janvier, la traversée a déjà coûté la vie à 761 personnes migrantes, selon le HCR. Et peut-être d'autres chiffres aussi qui démontrent un peu là, l'intensité de la crise migratoire actuelle. Il y a eu près de 180 000 arrivés par la mer en 2016, OK? Mais là, on est juste à 4 mois du début de l'année. L'année passée, en 2015, il y en avait eu un peu plus d'un million. Mais là où vraiment on voit toute l'ampleur finalement de la tragédie, c'est au niveau des morts en tentant la traversée. Cette année, en 2016, donc comme je le disais, à 4 mois du début de l'année, on est à 1261 morts ou disparus. Alors que l'année dernière, pour toute l'année 2015, il y avait eu 3625 morts de recensés, morts ou disparus de recensés. Donc, ça veut dire qu'à 4 mois du début de l'année, on est déjà à presque la moitié, finalement, des décès de l'année passée qui sont dus à la traversée en Méditerranée. Bon, là, évidemment, les États mettent en place là des patrouilles au large des côtes libyennes. Il y a plusieurs opérations dont les apatrides anonymes, on vous a parfois parlé, que soit l'opération Triton qui vient de l'agence de contrôle des frontières Frontex, qui est ça, qui est chapeautée par l'Union européenne. Il y a l'opération navale Antipasseur Sophia, l'opération Mare Sicuro de la marine italienne, pardon, mais aussi les bateaux privés affectés, entre autres, par SOS Méditerranée ou d'autres ONG, mais ça suffit pas. Là, on a appris dernièrement que l'OTAN pourrait lancer dans 3 mois ses premières patrouilles maritimes au large de la Libye pour... Bon, pas juste tenter de réduire le flux de migrantes arrivant en Italie, c'est évidemment aussi pour les passeurs et tout ça, donc pour arrêter les passeurs. Mais en tout cas, c'est du moins ce que semblait affirmer la Maison-Blanche dans un communiqué de presse qui a été diffusé après une rencontre entre les présidents américains et français, Barack Obama et François Hollande, mais également les chefs de gouvernement britanniques et italiens et la chancelière allemande Angela Merkel. Merkel, elle, préférerait que ce soit un commandement européen et non pas donné à l'OTAN. Du côté de la Libye, puis en échange, en tout cas, en retour, les Libyens, eux, bénéficieraient d'une aide financière pour créer chez eux des centres d'accueil et de réinsertion des réfugiés, mais en Libye, évidemment, c'est une stratégie qui est très critiquée par des organisations de défense des droits de l'homme, parce que la moitié des migrants qui arrivent en Italie qui fuient un conflit ou des persécutions sont éligibles au droit d'asile en Europe, donc il y a absolument aucune raison de les retourner chez eux. Et il est bon également de rappeler que la Libye n'a pas signé la Convention de Genève et que les conditions dans les centres de détention qui existent déjà en Libye sont vraiment épouvantables. Donc, la Libye, elle, ce qu'elle souhaite, c'est... souhaiterait bien avoir le même genre, pouvoir bénéficier du même genre d'accord qui a été signé entre l'Union européenne et la Turquie. Donc, on va voir là ce qui va arriver dans les prochaines semaines, parce que c'est sûr que, comme je vous le disais, avec la fermeture de la route des Balkans, la route terrestre des Balkans, avec la fermeture de plus en plus de frontières aussi de plusieurs pays, et avec le beau temps, donc c'est clair que la Méditerranée va redevenir une route de plus en plus empruntée par les personnes qui cherchent à gagner l'Europe. Voilà, donc on va voir un peu ce que ça donne dans les prochaines semaines. On va vous tenir au courant parce que c'est un dossier qui bon qui bouge quand même beaucoup. Autre nouvelle, il y a deux semaines, Mathieu vous parlait de deux arrestations qui sont survenues. Là, on revient au Canada, qui sont survenues selon l'article 83 du Code criminel, c'est-à-dire qui parle d'avoir quitté ou tenté de quitter pour participer à des activités d'un groupe terroriste à l'étranger. Mathieu, à ce moment-là, nous rappelait avec justesse à quel point ces arrestations-là, qui sont souvent très, très médiatisées, ont l'air plutôt improvisées, que les accusations demeurent toujours assez vagues et qu'on serait en droit de douter que la justice ne s'applique réellement dans le cas de ces personnes-là. La semaine dernière, en fait, le 26 avril dernier, il y a eu une autre personne qui a été arrêtée, cette fois-ci par les équipes intégrées de la Sécurité nationale. Donc, c'est à la fois GRC, SCRS et provincial également, donc la SQ, si je ne m'abuse. Encore une fois, un jeune homme de 17 ans, cette fois-ci, de Montréal-Nord. Il aurait été appréhendé, je dis « aurait » parce que les informations sont pas claires là sur ce qui arrive avec lui, en fait. Donc, il aurait été appréhendé pour menace d'activité terroriste et méfait public. Par contre, il a été relâché sous promesse de comparaître. Et pour le moment, aucune accusation officielle a été portée contre lui. Donc, c'est comme un peu... Ouais, c'est ça. C'est pas clair. Il y a un an, par contre, le jeune homme dont on ne connaît pas le nom, là, son identité a pas été révélée, avait déjà été arrêté par la GRC. Il faisait partie du groupe de 10 jeunes qui avaient été arrêtés à l'aéroport de Montréal parce que la police les soupçonnait de vouloir quitter le pays pour aller rejoindre le groupe État islamique en Syrie. Aucune accusation avait été portée contre ces jeunes-là non plus à ce moment-là. Il y avait la GRC, par contre, qui avait saisi les passeports des 10 jeunes qui avaient été arrêtés pour, évidemment, les empêcher de quitter le pays. Mais en tout cas, tout ça, ça nous fait dire, ça confirme encore plus, en fait, ce que Mathieu nous disait il y a deux semaines, tu sais, c'est le même modus operandi que pour les précédentes arrestations. Encore une fois, il s'agit d'un jeune, un homme. Les informations qui filtrent dans les médias sont plutôt minces. Quand on sait que dans plusieurs cas, il y a finalement pas d'accusation en plus en bout de compte, on peut se demander, disons que c'est difficile de pas voir ça comme étant du profilage. À la fois aussi peut-être une tactique pour donner des exemples, tu sais, créer des exemples qui seraient destinés à avoir un effet dissuasif pour d'autres jeunes, tu sais, qui seraient tentés de quitter le Canada pour aller faire le djihad ou je sais pas quoi. T'sais.
Terroriser la population pour augmenter l'islamophobie.
Le fear factor également aussi, c'est sûr. Fait que ça fait toute partie de, tu sais, fait qu'à quel point est-ce que c'est juste, bon, il s'agit d'enquêtes qui étaient déjà en cours, ou est-ce que c'est un peu comme une espèce de relation, tu sais, une opération de relations publiques? Si on se fie au passé, ça doit être un peu de tout ça en même temps, là. Mais c'est ça, c'est un peu des arrestations qui pop-up comme ça, qui sortent un peu de nulle part. Et puis pour ce qui est du jeune homme, la couverture médiatique n'est pas toujours très, très bonne. T'sais, dans le cas du jeune homme, on mentionne le fait qu'il est étudiant au cégep Maisonneuve. Alors que, bon, avec toutes les histoires qu'il y a eu au cégep Maisonneuve autour d'Adil Sharkawi, pourquoi mentionner ça? C'est complètement gratuit, c'est pas une information qui est essentielle pour la compréhension des choses. En tout cas, ça fait que tout ça n'augure rien de bon, là, mais ça aussi, on va rester à l'affût, les apatrides anonymes, et vous tenir au courant. Peut-être qu'on sera capable de vous faire un portrait plus clair ou un pattern ou une analyse à un moment donné quand il y aura eu d'autres cas comme ça, mais pour l'instant, voilà.
Et merci beaucoup, Marie-Ève, pour cette
merci
chronique.
À toi.
Et sa patrie d'anonyme.
Merci à toi. Et dans deux semaines, ce sera au tour de Simon à venir vous parler.
Bon, on accueillera Simon à bras ouverts.